Émission spéciale. Juan Gomez et Claire Hédon font le point sur l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette émission spéciale sur Ebola. Priorité santé et appel sur l'actualité s'associent donc pendant 2 heures pour faire le point sur cette épidémie. Les 3 pays les plus touchés par le virus Ebola, Sierra Leone, Liberia, Guinée, se sont engagés à éradiquer le virus d'ici le 15 avril lors d'un sommet dimanche dernier à Conakry. On sait qu'il y a maintenant 10 fois moins de cas d'Ebola chaque semaine qu'il y en avait en septembre 2014, mais l'épidémie en fait alterne des phases de baisse, des phases d'augmentation. Après un ralentissement fin 2014, le nombre de malades touchés par la fièvre hémorragique Ebola a de nouveau augmenté pendant 3 semaines de suite. Elle vient de baisser à nouveau la semaine dernière, ce qui prouve qu'on est loin d'en être sorti. Dans la première partie de cette émission spéciale, on a fait le point sur l'évolution de cette épidémie. On va parler maintenant des recherches, trouver de nouveaux traitements, comment se déroulent les essais sur le vaccin et les traitements. Un téléphone, si vous souhaitez participer, le 33 9 693 693 70. Et ils sont nombreux autour de cette table pour répondre à vos questions.
Nos invités aujourd'hui, le professeur Christophe Rapp, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital d'instruction des armées à Bégin, à Saint-Mandé. C'est l'un des 3 établissements de santé de référence Ebola en Ile-de-France. Et c'est d'ailleurs votre équipe qui a pris en charge les 2 cas importés de maladies à virus Ebola en France. À vos côtés, Augustin Augier de l'association Alima, Brice Delevaigne de Médecins Sans Frontières, le docteur Nathalie Garcia, médecin de travail à RFI. Vous travaillez également au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne en région parisienne, et vous êtes parti en tant que médecin volontaire au centre de traitement Ebola de Macinta en Guinée, un centre qui est tenu par la Croix-Rouge française. Et Sébastien Lemaitre, journaliste au service Afrique des RFI, vous rentrez tout juste du Libéria. Je voudrais qu'on démarre cette deuxième heure de l'émission spéciale en revenant sur le phénomène de la rumeur. On en parlait juste avant le journal. Vous souhaitiez justement rebondir sur ce phénomène qui prend de l'ampleur, Christophe Rapp.
Oui, je crois que c'est important de parler du phénomène de rumeur. C'est un phénomène classique dans toutes les épidémies. Ça avait été identifié dans les épidémies de fièvre hémorragique à Ebola précédentes. C'est d'autant plus évident qu'il s'agit d'une pathologie mortelle. Ce qu'on observe sur cette épidémie, c'est que les rumeurs se disséminent d'autant plus facilement avec maintenant les phénomènes de SMS ou les crieurs de rue. Et là, je crois qu'il y a vraiment une mobilisation sociale et communautaire de tous les instants pour lutter contre la rumeur. C'est vraiment un des points clés de la réussite.
Sébastien Lemaitre.
La rumeur elle a commencé très très tôt. Je crois que la mère de toutes les rumeurs au sujet d'Ebola, c'est qu'Ebola n'existe pas. C'était le déni total au départ. Ebola n'existe pas. Ensuite, on a eu Ebola a été inventé dans des laboratoires occidentaux.
Mais je rassure, on l'a toujours, dans les messages Facebook aujourd'hui, ça continue.
Donc ça a créé énormément de déni. Le déni a quand même diminué, en tout cas moi, ce que j'ai vu au Libéria, elle a quand même diminué. Mais on a encore des rumeurs, mais des rumeurs totalement farfelues. Je suis allé dans un marché aux vêtements. Les vendeurs me disaient, on ne vend pas de vêtements européens parce qu'ils sont fabriqués en Europe et parce que Ebola a été fabriqué en Europe. Ouais. Vous voyez l'association d'idées, quoi.
Et professeur Rapp, qu'est-ce qu'on répond justement face à un tel discours? On ne vend pas de vêtements européens car Ebola vient d'Europe. Que pouvez-vous répondre, vous, en tant que professeur spécialiste?
Alors là, on n'est plus dans la science, on est dans l'irrationnel. Mmh. On est dans l'irrationnel. Donc là, il faut essayer de rentrer en communication avec la population. Alors il y a des techniques de communication. Il y a une initiative en Guinée qui s'appelle la boîte à images, où avec un dessinateur local, ils ont mis en place 17 images qui sont distribuées dans tous les villages. Bon, toutes les systèmes de médiation sont intéressants, mais il n'y a pas une réponse unique pour lutter contre la rumeur.
Mais professeur Rapp, c'est quand même difficile de comprendre qu'un virus d'un seul coup émerge à un endroit. Effectivement, pour la population, c'est ça qui est difficile à comprendre.
Ah, évidemment, ça, le
et là, vous n'avez pas de réponse du pourquoi il démarre d'un seul coup.
On n'a pas de réponse sur les émergences, ce d'autant qu'on est en train, nous-mêmes, les scientifiques, d'essayer de trouver les explications qui sont environnementales et qui sont complexes.
La clé, c'est l'éducation. Il faut éduquer les gens, leur apprendre ce qu'est Ebola, comment ils se transmettent, et répéter les messages encore et encore.
Alors justement, on a Mouktar qui nous appelle de Conakry. Bonjour Mouktar.
Bonjour Juan, bonjour Claire, bonjour à toute l'équipe des RFI.
Vous disiez au Standard qu'il y a encore, dans votre entourage, beaucoup de personnes qui nient encore à l'heure actuelle la maladie, l'existence même d'Ebola.
Franchement, je suis vraiment déçu et vraiment je me demande pourquoi cet entêtement de certains de mes compatriotes qui ne croient pas jusqu'à présent à l'existence effective de cette maladie en République de Guinée, alors que nous avons connu des milliers et des milliers de morts.
Et comment vous l'expliquez?
Je m'interroge pourquoi cette frange de la population n'arrive pas à comprendre que vraiment cette maladie existe et elle n'est pas inventée comme on l'entend souvent. Mais je voudrais surtout m'exprimer, vraiment attirer l'attention des autorités guinéennes par rapport aux vecteurs de communication. Moi, je pense que la coordination qui est chargée de lutter contre Ebola en République de Guinée doit un peu changer de stratégie dans la communication.
Je pense déficit de communication, dites-vous, Brice Levègne, Médecins sans frontières.
Je veux juste insister sur une chose, parce qu'effectivement, il y a toujours la même chose, on parle d'éducation, de communication, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Il faut aussi écouter, c'est-à-dire qu'il faut écouter les communautés, savoir comment ils perçoivent ce qui est le virus et qu'est-ce qui leur arrive, car ils ont des lectures propres qui correspondent à leur culture, à leur façon de penser, et adapter le message. Donc ça demande pas, on ne peut pas faire un message de communication pour tout un pays, il doit être adapté parfois à chaque village. Et ça demande énormément d'efforts, de dialogue, mais si ce dialogue n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça qui est tout à fait essentiel, mais c'est tout à fait possible.
On repasse au standard avec Makalou qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Makalou.
Bonjour Claire.
Bienvenue, on vous écoute.
J'aimerais intervenir par rapport à certaines pratiques rituelles, parce que dans notre pays, le lavage mortuaire est couramment pratiqué. Et ceci est très favorable à la propagation de la maladie. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans les stratégies communicationnelles, on tient compte de ces lavages mortuaires-là qui vraiment favorisent au développement de la maladie?
C'est vrai que l'épidémie d'Ebola a compliqué les cérémonies rituelles lorsqu'une personne décède. Augustin Augier, vous avez été confronté à ce problème, évidemment, au sein de l'association Alima.
Oui, on sait que c'est probablement le principal facteur de contamination, hein, les cérémonies mortuaires où on lave les corps alors que les corps sont très contaminants. Alors au début, il y a eu une approche qui consistait à dire il faut plus que personne ne touche. Mmh. C'est très difficile parce que, comme on le disait tout à l'heure, dans une famille, on peut avoir 2, 3, 4, 5 morts absolument décimés. C'est terrible quand même comme drame humain. Et en plus, on leur dit vous ne pouvez pas enterrer vos morts. Donc finalement, on a avancé et puis on a trouvé des moyens de sécuriser les enterrements tout en écoutant ce qu'ils voulaient faire, pouvoir voir le corps, pouvoir apporter quelque chose qui se met dans le sac mortuaire des biens de la personne pour qu'il se réapproprie aussi cette cérémonie qui est culturellement extrêmement importante. Et donc là aussi, il a fallu écouter ce dont ils avaient besoin pour trouver un juste milieu. Et aujourd'hui, on arrive dans la plupart des cas à sécuriser les enterrements tout en acceptant ce que souhaite la famille et la communauté.
Sébastien Lemaitre au Libéria.
Au mois d'octobre, quand je suis allé au Libéria, j'ai suivi les équipes mortuaires de la Croix-Rouge pour ramasser des corps. C'est un vrai traumatisme pour les Libériens, cette histoire de crémation obligatoire. Parce qu'à un moment, le gouvernement a dit, voilà, tous les morts, s'ils ne sont pas officiellement non Ebola, s'il y a le moindre doute, tout le monde part au crématorium. Quand j'ai suivi la Croix-Rouge, la première famille, ils voulaient récupérer un corps, ça a failli tourner à l'émeute. Enfin, on était à la limite de la bagarre générale et la Croix-Rouge a dû se retirer sans le corps. 2 kilomètres plus loin, une autre famille, elle, a parfaitement accepté de donner le corps. Elle était très triste, ils avaient le cœur brisé, mais ils l'ont accepté. Donc c'est pas une règle générale, mais pour des raisons de religion, de croyance, voilà. Pour eux, c'est pas concevable de voir un corps disparaître, de pas pouvoir faire les rites funéraires, de pas pouvoir voir une tombe, voir un nom, pouvoir venir se recueillir. Et tout ça a évolué. Maintenant, au Libéria, la crémation ne se fait plus. Le crématorium n'est plus utilisé. Ils ont créé un cimetière qui s'appelle Disco Hill, où là, tout le monde est enterré. Chaque corps est considéré comme Ebola potentiel. Donc, tous ceux qui portent les corps en combinaison intégrale, on s'est transporté dans des sacs spéciaux, comme le décrivait Augustin Augier, et ça se passe quand même beaucoup mieux. Là, il y a une tombe, il y a quelque chose de visible, les gens peuvent revenir, c'est un endroit unique, un site, il y a 4 acres en ce moment, ça va augmenter jusqu'à 25, on a environ 400 tombes pour l'instant, un quartier musulman, un quartier pour les chrétiens, et ça se passe quand même mieux, il y a beaucoup plus d'acceptation du décès quand on sait qu'il va y avoir un véritable enterrement. Mais tout ça est pour éviter en fait les enterrements sauvages qui peuvent se faire dans la nature et peuvent être extrêmement dangereux, même si ça existe, on me l'a dit, les Américains, USAID me l'a dit, il existe des gens qui ont quand même les moyens de faire un enterrement à domicile chez eux, ça existe, mais c'est quand même vraiment marginal.
Juste une question, professeur Rapp, par rapport à ça, on a eu beaucoup de messages sur Facebook qui s'inquiétaient aussi de s'il y a des tombes justement avec des gens morts d'Ebola, quel est le risque de contamination après?
Alors c'est une question effectivement qui est récurrente. On a le virus est quand même fragile et on a quand même peu de raisons de penser qu'il y ait une persistance du virus dans l'environnement. Hein. Donc je crois qu'il faut être rassurant sur cet aspect.
On va parler des traitements, Claire.
Oui, absolument. On va parler des recherches. On a avec nous le professeur Jean-François Delfrécy. Professeur Delfrécy, bonjour. Vous êtes au téléphone.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le SIDA, et vous êtes coordonnateur Ebola pour la France et l'Afrique. On va parler des essais thérapeutiques, essais sur un traitement, un antiviral, le favipiravir, de la firme japonaise Fujifilm. Dites-nous où on en est. Quel est l'intérêt d'abord de ce médicament? Comment se déroulent les essais? Il y a des premiers résultats intéressants.
Bon, le traitement d'Ebola, c'est d'abord un traitement quand les patients sont atteints, qu'on appelle asymptomatique, c'est-à-dire avec un traitement de perfusion, de prise en charge, d'alimentation. Voilà, tout ça a été déjà bien décrit et c'est un élément essentiel parce qu'avec ça, on peut déjà réduire de façon importante la mortalité. Et puis ensuite, bien sûr, les questions de recherche se sont mises en route à partir de l'été. Pour essayer de trouver des médicaments spécifiques qui bloquent la multiplication du virus. L'idée était de dire, après tout, c'est un virus, il se multiplie, si on arrive à trouver un médicament qui bloque, on pourra peut-être avoir un effet. Donc il y a eu plusieurs stratégies, ces médicaments, vous savez, ont été en partie utilisés, mais de façon très, très épisodique sur des patients qui étaient ramenés en Europe ou aux États-Unis, sans qu'on puisse se faire une véritable idée de leur efficacité éventuelle. Donc, parmi ces médicaments, ont été repérés deux ou trois molécules qui avaient une action qui existait déjà, qui avait une action contre le virus grippal, en particulier le favipiravir, et qui, pour des raisons diverses, de premières données chez le singe, chez le primate, pouvaient suggérer qu'il y avait une activité contre le virus Ebola. Donc l'idée c'était de donner ces médicaments qui étaient disponibles, qui étaient donnables par voie orale, et a été donc lancé un essai en Guinée sous l'égide de l'INSERM, et en partenariat avec différentes ONG que vous avez d'ailleurs autour de la table, dans le dialogue là, que vous avez depuis tout à l'heure, sur un certain nombre de centres en Guinée. Donc l'essai a débuté mi-décembre. Et c'est un essai qui n'était pas randomisé, c'est-à-dire tous les patients qui recevaient ce médicament recevaient bien le médicament.
C'est ça, parce qu'en fait, un essai thérapeutique, normalement, on essaye le médicament sur une partie, l'autre partie, on donne un placebo.
Contre un placebo, mais on avait considéré avec MSF, avec les différentes ONG et les autorités guinéennes, bien sûr, qu'il n'était pas licite de se lancer dans un essai randomisé. Et donc c'est un essai qui essaie d'obtenir les patients le plus tôt possible, mais c'est pas tout à fait le cas. Les patients ont continué d'arriver un peu tard. Donc il a débuté le mi-décembre, très surveillé par un comité indépendant, c'est-à-dire qui n'a pas partie prenante dans l'essai, mais qui regarde pour surveiller entre guillemets ce qui se passe, et qui fin janvier a émis en disant que vous avez un signal, il y a un signal, en tout cas pour une catégorie de patients. Qui permet de dire qu'il y a peut-être une certaine forme d'efficacité de ce produit. Donc,
on sent que vous êtes prudent quand même. Vous êtes prudent.
Je suis prudent, mais je vais y revenir. Au sponsor qui était l'INSERM, au promoteur de l'essai, eh bien, de communiquer ces résultats à la fois aux autorités françaises et guinéennes, et ce qu'on a fait avec le président de l'INSERM il y a maintenant une dizaine de jours auprès du président Condé en Guinée. Alors, je résume. Ces résultats seront présentés complètement dans une semaine, lors du grand congrès de virologie internationale, qui est la CROI, qui a lieu à Seattle, où toutes les données sont complètement présentées. Et bon, la communication scientifique, c'est ça, donc je vous en dirai pas plus aujourd'hui, puisque ces données seront complètement présentes dans moins d'une semaine.
Vous allez nous dire que c'est sous embargo encore jusqu'à la semaine prochaine.
Et il faut attendre jusqu'à la semaine prochaine. Après, ce qu'on peut dire, c'est que, un, ce n'est pas un magic bullet, c'est le début de l'histoire thérapeutique contre Ebola. C'est un premier médicament, il faudra qu'il y en ait d'autres. Et ce qu'on peut dire également, c'est que en analysant très finement les patients qui arrivaient, on a bien constaté qu'il y avait en fait deux catégories de patients. Qu'il y avait des patients qui avaient des charges virales élevées, puis ceux qui avaient des charges virales basses, sans qu'on sache encore exactement pourquoi. Et ça ne correspond pas forcément à des patients qui arrivent tôt ou qui arrivent tard. C'était notre hypothèse de départ. L'hypothèse s'avère pas forcément bonne. Et en tout cas, on a des patients qui ont des charges virales élevées et des charges virales basses. Et que ce médicament a une forme d'efficacité chez les patients qui ont surtout une charge virale basse. Voilà. Donc, on a trouvé quelque chose, c'est clair. C'est un premier signal et c'est ce qu'on souhaitait trouver. Les résultats exacts vous les aurez dans une semaine. Et puis maintenant, il faut qu'on essaie d'additionner ou de trouver une des combinaisons qui soient plus efficaces. Et c'est là tout l'enjeu. Est-ce que ça va être possible? Et dans un certain sens, je me réjouis que l'épidémie se réduise. Et inversement, il faut qu'on avance aussi en pensant à un futur Ebola et que la recherche thérapeutique se poursuive. Donc,
mais justement, est-ce que c'est pas compliqué pour vous, pour l'instant, de mener des essais thérapeutiques alors que l'épidémie diminue, que vous lancez des essais dans des centres qui finalement n'en reçoivent plus de patients? Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte très difficile pour vous pour mener des essais thérapeutiques?
C'est un contexte qui est très difficile, mais il est très difficile depuis le début. Hein. Pas seulement pour nous, mais pour MSF, pour tout le monde. C'est comment mener de la recherche clinique et thérapeutique dans un contexte de crise sanitaire majeure. Hein. Et c'est une vraie question où chacun a ses... La crise sanitaire nécessite des éléments de réponse hein, qui sont... Les essais thérapeutiques doivent être menés dans des conditions très strictes. Je pense on a réussi à le faire, hein, et grâce à tout le monde, grâce à la fois aux chercheurs, mais aussi aux ONG qui ont été très partie prenante et aux Guinéens qui ont été très partie prenante dans cette affaire. Donc ça veut dire que cette grande difficulté, on l'a eu dès le octobre, novembre, quand tout ça a été lancé, on continue à l'avoir maintenant. Ben voilà,
encore une question, professeur Delfrécy, avant de prendre des questions des auditeurs. J'ai l'impression pour l'instant qu'il n'y a plus qu'un traitement qui est essayé. Je parle des traitements, pas des vaccins. Il n'y a plus que ce favipiravir qui est essayé.
Alors, il y a évidemment tout le monde, et si vous voulez, l'essai favipiravir a eu la chance, enfin, c'est pas seulement de la chance, c'est parce que tout le monde a été très putschi, de débuter mi-décembre. Et les essais qui devaient débuter fin décembre ou début janvier, eux se sont heurtés finalement au fait qu'il y avait de moins en moins de patients pour les tester. C'est d'ailleurs une vraie réflexion, alors qu'il y a eu énormément de réflexions de moyens, on se heurte en effet à ce problème-là. Donc un autre médicament qui est le brincidofovir, qui devait être testé en Sierra Leone et au Liberia, s'est arrêté. Hein, la firme et à la fois les autorités de recherche anglo-saxonnes qui le menaient ont décidé d'arrêter. Il est possible qu'il y ait deux autres approches. Une approche qui est menée aussi en Guinée avec l'immunothérapie, la plasmathérapie, et ça doit être mené dans un centre MSF à Conakry. Là aussi, c'est compliqué pour tout le monde. C'était regarder si finalement des plasmas de convalescents pouvaient contenir des anticorps neutralisants et avoir une certaine forme d'efficacité. J'espère qu'on va pouvoir quand même avoir quelques éléments de réponse. Et puis, il est possible qu'un autre médicament dont on avait beaucoup parlé au mois de septembre-octobre, parce qu'il avait été administré à des ONG en Europe, le ZEMAP, qui était en toute petite quantité, revienne là maintenant, parce qu'il y a une production qui a été faite au cours des trois derniers mois. Et il est possible qu'il y ait des combinaisons qui se fassent.
Bon, en tout cas déjà, concernant l'antiviral japonais dont on parle depuis tout à l'heure, les résultats définitifs seront connus dans une dizaine de jours. On a une question pour vous notamment, professeur Delfrécy, c'est Mokhtar qui va vous la poser, il nous appelle du Sénégal. Bonjour Mokhtar.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Voilà, bonjour. Je voulais savoir si les traitements proposés contre le virus Ebola peuvent avoir des effets secondaires négatifs sur les patients. Et si oui, lesquels?
Alors, y a-t-il des effets négatifs, professeur Delfrécy?
Tous les médicaments qui sont efficaces, que ce soit contre Ebola ou contre autre chose, ont forcément des effets secondaires. Hein, c'est le médecin qui vous parle. Tout médicament qui est efficace a forcément des effets secondaires. Et c'est tout le rôle du médecin. Eh bien, de peser la balance entre les avantages et les inconvénients à titre individuel pour son patient. Donc, le favipiravir aura des effets secondaires. Bon, néanmoins,
Et c'est bien ça qui est étudié dans les essais thérapeutiques, c'est de savoir aussi quels sont ces effets secondaires.
Dans les essais thérapeutiques, il est étudié trois choses, hein, la tolérance et donc les effets secondaires, éventuellement, et puis, et bien sûr, l'efficacité éventuelle, la question qu'on se pose. Alors, pour le favipiravir, il y a centaines de patients qui ont reçu à peu près ce produit. On n'a pas vu d'effets secondaires majeurs, mais c'est du court terme. Bon, il faut voir que le traitement contre Ebola, hein, c'est pas du tout le traitement contre le VIH ou contre les hépatites ou contre l'hépatite. Hein,
Émission spéciale. Juan Gomez et Claire Hédon font le point sur l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent donc pour cette émission spéciale sur Ebola. Priorité santé et appel sur l'actualité s'associent pendant 2 heures pour faire le point sur cette épidémie. Les 3 pays les plus touchés, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, se sont engagés à éradiquer le virus le 15 avril lors d'un sommet dimanche dernier à Conakry. Est-ce possible? C'est ce qu'on essaie de voir aujourd'hui avec nos invités, avec vous Juan Gomez. Les auditeurs sont nombreux à appeler. On rappelle un téléphone.
Le 339 693 693 70. Et on va justement vous donner la parole, vous qui nous écoutez. Ignace, vous nous appelez d'Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des questions à poser à nos invités. On vous écoute, Ignace.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à tous.
Bonjour.
Ma question, c'est de savoir qu'une fois qu'on aura trouvé le traitement, quelles seront les différentes étapes de sa distribution aux populations touchées?
Alors, on va peut-être poser la question au professeur Delfrécy, qui coordonnait la lutte contre
Ebola pour la France, et qui coordonne entre autres ses essais.
Également.
Exactement, qui coordonne entre autres ses essais. Professeur Delfrécy, effectivement, question intéressante. Une fois qu'on trouve le traitement, ou un traitement qui est intéressant, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ce sera peut-être pas un traitement, mais une combinaison de plusieurs traitements, c'est disponible quand pour la population?
Alors, si je reviens au favipiravir, donc la décision a été prise par le gouvernement guinéen de le mettre à disposition pour l'ensemble des patients dans l'ensemble des centres de traitement Ebola sur la Guinée à partir de début mars. C'est-à-dire que l'essai favipiravir continue à être mené, et il inclut d'ailleurs encore des nouveaux patients, jusqu'à fin février. Et à partir de début mars, le médicament sera disponible dans l'ensemble des centres de traitement. Parce qu'il existe ce médicament est déjà disponible au niveau central, au niveau guinéen. C'est pas des quantités considérables compte tenu de l'importance de l'épidémie actuelle, et heureusement d'ailleurs, c'est tout le contraste. Et donc le problème du coût qui est parfois aussi soulevé n'est pas un vrai problème. Une fois de plus, le coût du traitement d'Ebola n'est pas du tout dans le traitement des 35 millions de personnes HIV qui sont un traitement de maladie chronique. Là, on est avec un traitement qui compte quelques milliers de personnes et qui est un traitement pour une dizaine de jours. Donc, séparons bien les deux enjeux.
Mais c'est ça. Donc, après ça, une disposition relativement, même très rapide. Et c'est intéressant de voir comment on peut passer d'un essai clinique à une disposition assez rapidement. Professeur Delfrécy, j'aimerais bien qu'on parle. On a parlé là des essais thérapeutiques sur des médicaments, de nouveaux traitements. Qu'en est-il des essais thérapeutiques sur un vaccin? Alors là, on est sur autre chose. C'est préventif pour ne pas attraper la maladie d'Ebola. On en est où? Les essais ont démarré?
Alors, il y a un premier essai qui vient de démarrer au Libéria, qui est avec le vaccin, avec deux vaccins, le vaccin GSK puis le vaccin issu du programme canadien, qui est piloté par le centre de recherche américain, le NIH, qui est un vaccin en population générale, qui est administré en population générale et puis qui espère pouvoir montrer qu'il y aura un effet protecteur. Initialement, il y avait 3 groupes de personnes, de volontaires, d'environ 10 000 personnes par groupe. Compte tenu de l'incidence de l'épidémie Ebola, en particulier au Libéria, les nouveaux calculs font qu'ils seront probablement obligés de vacciner autour de 120 000 à 140 000 personnes. Donc, je ne sais pas s'il y aura une réponse avec ce vaccin. Deuxième stratégie, c'est celle menée plutôt par l'OMS, qui est en Guinée, qui s'appuie là sur, c'est un essai qu'on appelle « The Ring Trial », qui est un essai qui vaccine des populations qui sont plus à risque, c'est-à-dire autour des soignants, de leurs familles, des gens qui ont été en contact avec Ebola, en disant qu'il y a plus de risques, donc il y a plus de risques et donc plus de chances, entre guillemets, de voir l'efficacité d'un vaccin préventif. Alors cet essai qui va être mené probablement avec le vaccin GSK devrait débuter normalement mi-mars dans un certain nombre de centres de traitement en Guinée. Il a à mes yeux un petit peu plus de chances de montrer une efficacité vaccinale parce qu'il s'adresse à une population qui est ciblée, non pas à la population générale.
Et même chose, c'est jamais essai contre placebo.
Non, c'est un essai. Là, on est dans le vaccin à titre préventif, et autant il n'était pas justifié en termes curatifs quand on s'adresse aux patients et donc au traitement d'utiliser un placebo, en termes de ce qu'on appelle des phases 3, on est dans la phase 3 vaccinale, là on est obligé d'avoir un bras qui est un bras placebo. pour montrer la comparaison et l'efficacité du produit vaccinal. Je vous rappelle que on s'adresse à des volontaires qui ne sont absolument pas malades. Donc là, l'idée même du placebo, elle est totalement légitime à mes yeux. Hein. Il y a aucun souci là-dessus.
Sébastien Németh, vous étiez au Libéria il y a encore une dizaine de jours. Le professeur Delfrécy parlait justement de cette campagne, de ces essais de vaccins au Libéria. Vous avez vu, vous
Oui, j'y étais. Oui. Pour la petite histoire, ça se déroule à l'hôpital Rédemption, un hôpital que j'ai toujours refusé de visiter quand l'épidémie était très forte, parce qu'il m'était décrit comme un mouroir par les humanitaires. Quand j'essayais de discuter des conditions de sécurité, j'ai toujours refusé d'y mettre les pieds. Par contre là, j'ai pu y aller, il est en cours de rénovation, il a rouvert. Enfin, il a jamais fermé d'ailleurs, mais il refonctionne, pas encore normalement, mais ça vient. Et pour cette campagne de vaccination, il y a deux choses. Il y a encore énormément de rumeurs avec cette histoire de vaccin, on en a parlé tout à l'heure, et évidemment avec ce vaccin, la rumeur a été associée. Deux rumeurs, le vaccin vous infecte avec Ebola et vous tue, parce que dans le vaccin, il y a une infime dose d'Ebola inoffensive, et voilà, ça entraîne une crainte, toujours cette psychose vis-à-vis d'Ebola, qui est quelque part quand même très compréhensible. Et deuxième rumeur, c'est que les volontaires sont payés. $40
et quand
venez, et c'est totalement faux. Alors
certains sont indemnisés tout
voilà
de même.
Et là il y a un petit peu d'argent qui vous est donné à la fin de la journée pour vous payer à manger parce que vous avez attendu dans les couloirs et que ça a pris du temps, et un tout petit peu d'argent si vous n'avez pas de véhicule pour vous payer le taxi pour rentrer. En tout cas, il y a énormément d'enthousiasme vis-à-vis de cette campagne, il y a des réticences, mais de l'enthousiasme. Beaucoup plus de gens que ce qui était prévu se sont présentés en volontaire parce que ils sont citoyens, ils veulent sauver leur pays, ils veulent régler ce problème Ebola. Certains peut-être ont été attirés par cette rumeur des $40, mais c'est quand même vraiment à la marge, et c'était 12 volontaires qui devaient être testés par jour la première semaine, et donc ça fait une soixantaine de personnes la première semaine, et il y avait plus d'une centaine de gens qui s'étaient présentés et au moins 400 qui étaient déjà sur les listes. Donc il y a énormément d'attentes, d'enthousiasme, de gens qui viennent, qui font la queue, mais bon, l'espace manque et on peut pas accueillir tout le monde dans ce centre, mais il y a quand même beaucoup d'enthousiasme chez les Libériens vis-à-vis de cette campagne, beaucoup d'espace.
Professeur Christophe Rapp, justement, sur ces essais en cours concernant le vaccin.
Vous y participez?
Alors, tout le monde y participe. Je crois que c'est important, mais je dirais que le temps de la recherche n'est pas le temps de la riposte. Hein. Et je crois que, malheureusement, ces vaccins, c'est pour l'épidémie future. Hein. Je crois, moi, je le dis à chaque fois que j'interviens, à la fois les traitements étiologiques et ces vaccins, il ne faut pas y mettre trop d'espoir. C'est pas ça qui va contrôler l'épidémie. L'épidémie, elle se contrôle sur le terrain avec le suivi des contacts. Donc là, on a fait des efforts magnifiques, et notamment l'INSERM avec l'étude sur le papillomavirus pour faire de la recherche dans des conditions éthique acceptable au cœur d'une épidémie, mais là aussi la riposte est un peu tardive, la mise en route est complexe, elle va être complexifiée par le fait que l'épidémie est en recul et que donc là ça va être difficile d'inclure. On en parlait tout à l'heure pour les autres essais thérapeutiques, notamment sur les anticorps monoclonaux qui seront peut-être pas validés. Donc je pense que c'est le deuxième temps, j'appellerais ça le temps de la post-épidémie.
Sébastien Németh.
J'avais une question. On connaît Ebola depuis 1976. Pourquoi ce vaccin n'arrive que maintenant? Est-ce qu'il y a un côté cynique dans le sens où Ebola ne tuait que quelques personnes en brousse en RDC? Là, maintenant, ça tue des milliers de personnes et ça peut toucher l'Occident. Donc, on se met à créer
panique
des vaccins.
Panique à bord
aux États-Unis,
voilà,
en Europe.
Ça arrive
est-ce que
maintenant.
C'est ça ou est-ce que c'est un vaccin compliqué? On voit bien sur le sida, ça fait 30 ans qu'il y a des chercheurs et qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ça peut aussi être ça.
Justement, en l'occurrence, Ebola, c'est pas un virus très compliqué. La preuve, c'est qu'en très peu de temps, on a trouvé des vaccins. Alors, il faut savoir quand même, c'est des vaccins qui ont été validés en phase 1 depuis 2011. Donc c'est bon, on les a pas trouvés en 3 mois. L'OMS a sorti une liste de 53 antiviraux existants qui potentiellement peuvent avoir un impact pour réduire la mortalité.
Donc là, c'est pas parce que c'est complexe.
Comment vous l'expliquez alors, Augustin Auger, qu'il n'y ait toujours pas de vaccin?
C'est un problème politique de financement de la recherche. Et de fait, il n'y avait pas de marché pour les grandes compagnies pharmaceutiques parce qu'on a toujours pensé... Il faut se souvenir que la plus grande épidémie d'Ebola avant celle-là avait touché 435 personnes. Donc ça touchait peu de gens.
Et pas 23 000 comme aujourd'hui.
Marché économique. Il n'y a personne dans la puissance publique, que ce soit dans nos États ou au global dans le système des Nations Unies, pour financer le développement de ces vaccins, de ces thérapeutiques, alors même qu'on voit bien que sur une maladie comme Ebola, finalement, orpheline comme on dit, c'est pas si compliqué médicalement de trouver des solutions.
Et aujourd'hui, Ebola est devenu un enjeu financier, économique. Il y a une vraie concurrence entre laboratoires français, américains, japonais.
Dès lors qu'on a commencé à avoir peur dans les pays occidentaux, il a été question d'acheter des centaines de millions de doses du vaccin GSK, par exemple, dans les discussions à Genève.
Donc, Christophe Rapp, vous vouliez
aussi. Ça a permis d'accélérer les choses.
Vous vouliez réagir aussi.
Je veux renforcer le message de notre collègue. Effectivement, on passe de maladies tropicales négligées à urgence de portée internationale et à une recherche qui était stratégique réservée à certaines armées du monde, à maintenant une recherche globalisée, mondialisée, avec bien sûr des intérêts financiers et les enjeux majeurs.
Tout simplement parce qu'Ebola ne faisait simplement pas assez de morts au départ, en fait. C'est extrêmement cynique.
Et professeur Delfraissy, vous vouliez réagir aussi ?
Oui, moi je vais à l'encontre de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est enfin pas à l'encontre, mais je nuance. C'est vrai que tout ce qui a été dit est vrai. Néanmoins, c'est compliqué aussi la recherche sur Ebola, parce que faire de la recherche quand il y avait des petites épidémies de 10, 15, 50 personnes qui disparaissaient en moins d'un mois, c'était extrêmement difficile. Nous, on a des chercheurs français qui est un des plus brillants, qui s'appelle Éric Leroy, qui a mené une série de recherches intéressantes. Il n'avait pas le temps d'aller plus loin. Et on voit bien la complexité de poser les questions, puisque même quand la machine se met en route, avec à la fois le financement, les chercheurs, vous voyez qu'on a du mal à répondre et à être dans le timing de l'épidémie.
Professeur Delfraissy, c'était pas le temps ou pas l'argent ?
Non, justement, c'est là où je m'indique. Il y a bien sûr à la fois les décisions politiques, il y a l'argent, et puis on n'avait pas le temps. Il y avait pas le temps de se lancer sur certains aspects vaccinaux ou de thérapeutiques. Et c'est seulement parce que, tout le monde le dit bien, c'est la première épidémie qui, en termes quantitatifs et dans la durabilité, permet de poser une série de questions. Et puis là, l'argent arrive. Donc c'est un mélange à la fois de pas suffisamment de recherche, que les grandes compagnies s'y soient pas suffisamment intéressées, et aussi que jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu le temps de se poser un certain nombre de questions, et on voit bien la difficulté, puisque même là, on est juste.
Professeur Delfraissy, une question pour vous, justement. Bourena nous appelle du Mali. Bonjour à vous, Bourena.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, je voudrais savoir s'il existe des personnes porteurs sains de la maladie à virus Ebola, c'est-à-dire des personnes qui ont le virus dans leur organisme, mais ne manifestent pas la maladie. Merci.
Merci à vous. Que peut-on répondre, professeur Delfraissy ?
Existe-t-il des formes d'Ebola asymptomatiques ? La réponse est probablement oui. On n'en sait pas exactement la quantité. Ce phénomène a déjà été décrit dans des épidémies antérieures. Et c'est une des choses qu'on soupçonne, par exemple, aussi en Afrique de l'Ouest actuellement, qu'on va regarder d'ailleurs dans les recherches qui vont être
faites. C'est ça, ça vous intéresse pour la recherche, justement ?
Oui, ça nous intéresse. Pourquoi ? Parce que s'il y a de l'Ebola asymptomatique, ça veut dire que finalement, il y a des gens qui ont la capacité de répondre à Ebola. Alors, on le sait déjà avec les survivants de gens qui ont survécu à Ebola, et c'est aussi des patients qui sont très intéressants. Une cohorte, d'ailleurs, des patients survivants va se monter aussi, gérée par l'INSERM. Mais il y a probablement plus. Il y a probablement des gens qui ont été en contact avec Ebola, et puis qui ont eu absolument aucun symptôme. Et là aussi, ça nous intéresse. Et tout ça montre, et je reviens sur ce que disait Augustin Auger, c'est-à-dire qu'on pense que, compte tenu de ces réponses immunitaires chez certains patients, eh bien, ça veut dire qu'il y a des capacités à se défendre. Et donc, finalement, monter un vaccin contre Ebola ne va peut-être pas être si difficile que ça. Ça n'a rien à voir avec monter un vaccin contre le VIH.
Sébastien Nemeth, ce dont parle à l'instant le professeur Delfraissy, vous l'avez vu, vous ?
J'ai constaté un cas que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est cette famille qui a perdu 5 membres de sa famille. Un homme, un des frères de cette famille, a porté le corps. Il savait pas que c'était Ebola. Il y avait du déni dans cette famille. Il pensait que c'était de la sorcellerie ou de l'hypotension. Il a porté le corps de son père lui-même dans l'ambulance. Il y avait une personne malade dans sa maison. Il a vécu avec et il est jamais tombé malade. Cette personne qui était malade avec lui était diagnostiquée Ebola. Je sais pas comment cet homme est passé à travers. Moi, dans mon reportage, je l'ai décrit comme un miraculé. Alors, on peut discuter de ce terme, mais ça m'a quand même intrigué.
Les scientifiques ont du mal avec le miracle.
Ont du mal avec le miracle. Professeur Jean-François Delfraissy, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes coordonnateur Ebola pour la France et l'Afrique. Il nous reste encore 13 minutes. Je voudrais qu'on prenne encore quelques auditeurs tout de même. Abdallah nous appelle du Tchad. Il est à Djamena. Bonjour Abdallah.
Bonjour.
Vous avez une question à poser à nos invités.
Oui, ma question est de savoir le virus d'Ebola peut se transmettre chez une femme enceinte à son fœtus.
Alors, est-ce que le virus se transmet de la femme enceinte au fœtus? Qui peut répondre?
Professeur Rapp.
Oui, bien entendu, hein, y a une transmission de la femme au fœtus et c'est un réel problème puisque c'est responsable d'avortement précoce ou de contamination du bébé. Et c'est un des grands enjeux sur le terrain où le taux de décès chez les femmes enceintes et chez les nouveau-nés est majeur. Donc,
il y a
c'est
des femmes enceintes qui ont survécu? Ou pas, où on a aussi...
Pour la première fois, en fait, dans cette épidémie-ci, il y a des femmes enceintes qui ont survécu. Pas énormément, elles restent très 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 vulnérables, c'est sûr, une fois qu'elles contractent le virus, mais il y en a qui ont survécu.
Oui. Est-ce qu'on peut rappeler, en deux mots, parce qu'on ne l'a pas fait depuis le début de cette émission, peut-être rappeler les moyens, finalement, de se protéger, de casser la chaîne de transmission?
Casser la chaîne, enfin, il y a clairement, c'est ce qu'on a, des mesures très très simples qu'on fait, c'est-à-dire se laver les mains, utiliser du chlore, dans les pratiques qu'on discutait tout à l'heure, notamment mortuaire, effectivement, de ne pas toucher les corps. Donc toutes ces mesures qui ressemblent d'ailleurs assez fort à d'autres maladies contagieuses comme le choléra, si elles sont appliquées avec rigueur, sont extrêmement efficaces.
On a Décor qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Décor, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Décor.
Oui, le problème est que je ne comprends pas pourquoi certaines personnes survivent et d'autres meurent, alors qu'elles reçoivent le même sang.
Oui.
Bon, ma question est vraiment de savoir qu'est-ce qui fait que certains résistent mieux que d'autres.
C'est très intéressant, votre question, professeur Christophe Frappe. Vous aimeriez bien pouvoir y répondre, d'ailleurs.
Alors, c'est une très bonne question. C'est un des grands enjeux de la prise en charge du virus Ebola. C'est l'immunité des personnes, justement. Donc là, on parle d'immunité naturelle et non pas d'immunité acquise par la vaccination. Il y a deux profils de patients. Hein. Il y a des profils de décédés avec des gens qui n'ont pas de réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'ils ne synthétisent pas d'anticorps quand ils sont en contact avec le virus Ebola. Et d'autres, hein, qui sont les survivants, qui vont sécréter très rapidement une réponse anticorps. Et pour l'instant, les déterminants de cette immunité ne sont pas connus. Donc on va essayer d'avancer.
Et ça fait partie, c'est un des enjeux de la recherche.
Voilà, on en parlait avec le professeur Defesri, on va chercher chez ces asymptomatiques, est-ce que justement ils sont porteurs d'anticorps, est-ce qu'ils sont protégés.
Docteur Nathalie Garcia.
Oui, moi je voulais juste ajouter, à partir de constats empiriques, hein, lors de mon expérience récente, en fait la quantité de virus avec lequel on est en contact au moment de la contamination compte énormément sur le pronostic, hein, sur le fait qu'on va guérir ou pas. Donc le fait surtout d'être en contact avec les fluides biologiques, les vomissements, la diarrhée, le sang, oui, et puis les corps décédés. Après, moi j'ai l'expérience d'un bébé qui est arrivé dans les bras de sa mère, la maman était mourante et d'ailleurs décédée 2 jours plus tard. Donc elle tenait son bébé, elle l'allaitait au moment où elle est arrivée au CTE, la maman est donc décédée, le bébé n'a jamais déclaré la maladie.
Et pour vous, ça a été très frustrant sur place de ne pas comprendre pourquoi certains s'en sortaient et d'autres ne s'en sortaient pas, d'ailleurs alors que vous donniez exactement les mêmes soins.
Oui, non, mais bon, on avait quand même des indicateurs de pronostic à l'arrivée. C'est vrai que ceux qui arrivaient vraiment dans un état très dégradé, déshydraté et très avancé étaient de mauvais, enfin, a priori, il y avait moins de chances de guérir. Et également, les très jeunes et les sujets de plus de 45-50 ans.
Brice de Leven, je voulais quand même vous poser une question parce qu'il y a une polémique en ce moment à Médecins Sans Frontières qu'il faut qu'on évoque sur cette question des traitements. Certains traitements ont été négligés. Entre autres, on parle beaucoup de tout ce qui est perfusion. MSF a choisi au départ de ne pas le faire. Est-ce que vous pouvez quand même expliquer pourquoi aujourd'hui c'est fait quand même dans les centres de traitement?
Tout d'abord, je veux clarifier que MSF a, depuis le tout début de l'épidémie, toujours donné des perfusions quand c'était nécessaire. Il y a toute une série de protocoles. Ce n'est pas toujours, c'est pas systématique que ce soit nécessaire pour réhydrater. Mais quand c'est nécessaire, il y a toujours eu des perfusions. Ce qui s'est passé à un certain moment, et ça a été à des moments très précis dans certains centres, c'est vu le nombre de cas. Il faut se rappeler, par exemple, qu'au mois de septembre, on devait refuser des dizaines et des dizaines de patients au Liberia, à Monrovia, effectivement, que là, on s'est trouvé dans des situations tout à fait... horrible.
Trop de malades, pas assez de personnel horrible. Soignant.
Exactement, qui sont absolument... Et là, effectivement, comme il y a aussi dans notre... on pense très fort aussi à la sécurité du personnel pour pas qu'il se contamine, on a dû prendre certaines mesures. Mais ça a été très, très court. Sinon, tout le monde a toujours eu...
Et docteur Garcia, vous, quand vous y étiez dans le centre de traitement de la Croix-Rouge, vous avez toujours mis des perfusions en place, c'est ça ou pas?
Alors, si la prise orale du patient n'était pas possible,
hein,
parce qu'il vomissait, il vomissait systématiquement, ou s'il était vraiment extrêmement déshydraté.
Augustin Augier.
La question de d'améliorer les traitements, de piquer, de transfuser, c'est aussi qu'il y a un risque pour le personnel soignant. Et d'une manière plus générale, je veux juste revenir sur un point. On parlait de la stigmatisation des patients Ebola dans les communautés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 95% des équipes soignantes sont des Guinéens, des Sierra Leonais, des Libériens, qui sont stigmatisés aussi quand ils rentrent chez eux le soir. Alors que toute la journée, ils prennent des risques incroyables. C'est très compliqué, c'est extrêmement fatigant. Ils passent des heures sous les équipements de protection. Ils rentrent chez eux, ils n'ont pas le droit de dîner à table. Ils sont obligés d'aller dîner à côté parce que la famille a peur. Il y en a un grand nombre d'entre eux qui ont dû déménager.
Mais d'ailleurs, il y a plein de personnels soignants qui ont quand même été contaminés, on peut le dire aussi.
Il y a 850 personnels soignants contaminés, et on est presque à 500 décès aujourd'hui. Et voilà, je voudrais quand même passer aussi le message à toutes ces populations que stigmatiser, que ça fasse peur, c'est une chose, mais ces gens-là, qui sont des milliers, hein, devraient être vus comme des héros dans ces pays, et pas stigmatisés.
Sébastien Demet.
C'est pour ça que le Time Magazine a dit personne de l'année 2014, c'était ceux qui luttent contre Ebola, sur le terrain. Il y a une série de portraits, de photos, c'est bien pour ça que ces gens ont été mis en avant. Ce sont des héros, ils ont un courage incroyable, vu les risques qu'ils prennent.
Hein. Alors justement, quelles conséquences Ebola, maintenant, sur le reste de la santé dans tous ces pays touchés par la maladie, Brice de Lavaigne.
Écoutez, ça a été une véritable catastrophe, c'est ce qu'on a dit depuis le début, la catastrophe dans la catastrophe, notamment au Libéria principalement. On a vu une ville comme Monrovia d'1,3 million de personnes avec plus aucun hôpital ouvert. Il faut imaginer ce que c'est. Vous êtes une femme enceinte avec un accouchement, vous êtes quelqu'un qui a fait un accident de la route.
Un palu, tout simplement.
Enfin, toutes les urgences, il n'y avait plus d'hôpitaux ouverts. Maintenant, une partie est en train de réouvrir, mais l'impact est extrêmement difficilement chiffrable. Mais vraiment, ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment une énorme catastrophe dans la catastrophe. Et toujours aujourd'hui, il y a du staff. Je voudrais revenir aussi qu'il y a toujours aussi du personnel qui se contamine en Guinée parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour faire leur travail.
Professeur Rapp, est-ce qu'on va avoir un jour des chiffres sur finalement combien de personnes sont mortes, de palus, d'accouchements non sécurisés? Est-ce qu'on ne va pas atteindre un chiffre qui sera bien supérieur aux 9000 pour l'instant morts d'Ebola?
Probablement, hein, les effets collatéraux de ce type d'épidémie sont majeurs, notamment sur les maladies infectieuses, sur la mortalité périnatale. Il y a eu des épidémies de rougeole en Guinée. Il y a des effets collatéraux majeurs.
Sébastien Demet, justement.
Deux choses sur le système de santé. J'ai eu quelques chiffres, moi, par MSF d'ailleurs. Hein, c'était au mois d'octobre, au Libéria, 50% des cliniques étaient fermées, 60% des centres de santé étaient fermés. Avant Ebola, il y avait déjà pas assez de lits. Pour les patients, depuis Ebola, on est descendu à une capacité de 23% de lits par rapport aux besoins. Ces chiffres sont en légère amélioration. Certains, Brice de Levain nous l'a dit, certains hôpitaux ou cliniques ont rouvert, mais c'est quand même très lent. Il y a toujours une psychose, faire revenir les soignants dans les centres de santé, dans les hôpitaux, faire revenir les patients. Pour ça, MSF ou les différentes ONG et institutions font un travail, ils mettent en place ce qu'on appelle l'infection prevention control. C'est-à-dire que on améliore tous les standards, tous les protocoles d'hygiène pour éviter les transmissions d'infections entre patients, d'un patient au soignant. Ça veut dire qu'on change tout parce que là, on met en place des protocoles pour éviter Ebola. Ça veut dire qu'on met en place un triage, température à l'entrée, on refait les sols pour pas qu'il y ait de l'eau stagnante. Tout le monde, tous les patients sont traités comme Ebola potentiel. Donc tout le monde est en combinaison pour faire le moindre acte de traitement, ce qui pose un problème. Ça ralentit tous les soins. Et si vous avez une urgence, si votre patient risque de mourir dans les 5 minutes, ben non, parce que vous devez prendre 10 minutes pour mettre votre combinaison. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Tout ça devra être reconstruit.
Une dernière question pour aujourd'hui au standard. Vladimir, bonjour.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes au Cameroun. On vous écoute.
Ah ouais, c'est ça. Je voudrais savoir, il y a déjà quelques jours, le Pentagone a décidé du retrait de ses soldats engagé dans la lutte anti-Ebola. Et je voudrais savoir comment expliquer une telle décision alors qu'en ce moment, on assiste tous à une recrudescence des cas d'épidémie.
Ah, Sébastien Demet, les États-Unis ont dépêché quelques 3000 militaires, hein, je crois,
entre le Libéria et le
Sénégal. Le Pentagone a annoncé le retour à la maison de quasiment tous ses soldats.
Non, la moitié.
La moitié sont déjà partis.
Ah oui, c'est ça. Mais
l'autre moitié sera partie
d'ici le 30 avril. Voilà. Donc c'est un retour annoncé. Clairement, comment expliquer une telle décision?
Non, c'est pas étonnant parce que les soldats américains au Libéria, ils étaient là pour construire, pour mettre en place des infrastructures. Ils ont construit, je sais pas, peut-être une quinzaine de centres de traitement Ebola. Maintenant que ces centres de traitement sont là, maintenant qu'il y a beaucoup moins de malades ou de patients à traiter, on n'a plus besoin d'eux, effectivement. Et de toute façon, ils sont prêts à se redéployer si vraiment, vraiment il y a besoin. Et je vais vous dire, vu le contexte international et le nombre de crises qu'on a dans le monde, ces soldats, ils peuvent être déployés très facilement ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est pas étonnant et qui, moi, personnellement, me choque pas vraiment. En fait, on n'a pas forcément, plus forcément besoin d'eux en ce moment, en tout cas.
De nombreux médecins des ONG considèrent que cette épidémie a montré vraiment les carences de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a mis du temps à réagir. Qu'en pensez-vous? J'imagine que vous avez envie de réagir à ça, Brice de Levaigne, pour MSF.
Il y a pas de secret. Enfin, je veux dire, on a très tôt dans l'épidémie essayé de mobiliser le plus tous les acteurs. L'OMS n'a pas réagi suffisamment rapidement.
Trop de bureaucratie.
Trop lente, trop de bureaucratie, je pense trop aussi consciente de l'environnement politique au lieu de voir vraiment la catastrophe qui était devant elle. Donc il y a eu beaucoup de problèmes, puisqu'on parle l'alerte. Enfin,
ce qu'on peut dire quand
même, mobilisation seulement en juillet, fin juillet.
Le directeur régional Afrique est élu par les États membres, ce qui accentue quand même un caractère politique à ces nominations.
Tout à fait.
Et on sait que les représentants OMS dans chaque pays veulent pas aller à l'encontre de ce que dit le pays, et les pays ont été réticents à dire les cas. Enfin, c'est une question politique.
Une question politique, et il y a rien de pire que pour lutter contre un virus.
C'est ça qui est, voilà, quand même. Donc, on pourra... Un petit mot de conclusion, professeur Rapp, on arrive vraiment à la fin de cette émission, vous avez juste 10 secondes.
Je crois que on a évoqué le post-épidémie, hein. On n'a pas eu le temps d'en parler trop, je crois qu'il faut en parler. Il y a de la reconstruction, il y a de la formation sur les techniques d'hygiène, il y a le suivi des convalescents, il y a encore beaucoup de travail, et il ne faudra pas oublier cette phase de réponse.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous, on remercie les équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission, Claire Edon.
Oui, merci beaucoup à tous, les équipes de Priorité Santé et d'Appel sur l'actualité. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter aussi toute cette émission sur notre site internet rfi.fr. Au revoir à tous.